Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et vous voyez comme cette libre antenne est bien partie. Nous sommes mardi, nous ne sommes pas mercredi. C'est dingue. Hein, je suis Jean-Baptiste, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Alors Jean-Baptiste, merci de nous accorder du temps encore ce soir, parce que voilà, je récapitule. Hier soir, nous sommes parlé. On avait commencé à échanger ensemble et puis il ne nous restait pas assez de temps. Et donc je vous ai proposé de continuer cette discussion. Donc je résume notre échange d'hier soir. Vous m'avez appelé pour me parler de votre liaison amoureuse, en tout cas de votre compagne, future femme, puisque vous prévoyez de vous marier dans quelques mois. Votre femme est actuellement enceinte. Vous avez fait, vous m'avez raconté une enfance et une adolescence pas mal perturbées, avec un père qui vous imposait une relation assez toxique, puisque vous faisiez part d'une fratrie qui avait plutôt bien réussi dans les études, dans la vie, et puis vous, vilain petit canard à qui on avait fait remarquer plus d'une fois qu'il était à la traîne, ce qui vous avait pas mal impacté, puisque vous avez plongé dans la toxicomanie, hein, dans le cannabis et dans l'alcool pendant pas mal de temps, puisque cela fait 3 ans que vous avez maintenant décroché. D'ailleurs, je vous en félicite, parce que c'est un long chemin tortueux, et il est souvent difficile de vaincre ces addictions. Donc, pour cela, vous pouvez être fier. Et puis, nous en sommes arrivés au cœur de la discussion à ce qui vous embête en ce moment. Ce sont des disputes répétées avec votre future femme et cette habitude que vous avez de lui faire certaines réflexions, notamment sur la manière dont elle s'habille. Donc, nous en étions restés là. Je vous avais dit que c'était un peu curieux, hein, de faire ce type de réflexion. Vous en conveniez. Mais on en était restés là. Et j'aimerais bien qu'on continue ça, parce que vous avez eu le temps, je pense, d'y réfléchir depuis hier soir.
Oui.
Et donc, à quoi vous rattachez cette attitude que vous avez avec elle, et pour que je comprenne bien et que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien, ces réflexions en fait sur ses habits, sur la manière dont elle s'habille, elles provoquent quoi chez vous exactement?
Alors, effectivement, merci déjà pour le beau résumé, enfin le beau résumé. Et alors, concernant ces réflexions que je peux faire, bon, ça peut être les vêtements, ça peut me mettre d'autres choses par moment. Et je crois que c'est clairement lié aux réflexions que faisait mon propre père, en fait, hein, à ma mère et à moi.
Oui. Qui était de quel ordre, en fait? Qui était de quel ordre? Aussi sur votre tenue?
Alors, pas sur ma tenue à moi, ça c'était plutôt pour ma mère, à la limite. Qui était voilà, moi c'était d'autres choses, mais après je veux pas faire passer mon père pour quelqu'un d'horrible, parce que c'était pas le cas. Il avait ses limites, comme on en a tous, hein. Mais voilà, je crois tout simplement que je reproduis des choses un peu mécaniquement, un peu bêtement, même complètement bêtement. Je dirais ça, voilà, je dirais tout simplement ça, en fait.
C'est l'éducation, finalement, que vous avez reçue qui est ressurgie?
Ouais. Ouais, ouais. Je pense, en plus, bon, j'ai perdu mon père là, très soudainement. Ça a été un gros choc, parce que c'est un accident. Il s'est noyé à 6 mois, vous voyez. Donc d'autant plus, il y a beaucoup de choses qui remontent, voilà, hein, pour moi, en ce moment. Pas eu le temps de tout lui dire, même si on parlait quand même beaucoup. Je pense que lui non plus. Et voilà, et je me rends bien compte que, en tout cas, que je suis en train de reproduire certaines choses. Et c'est, alors parfois on sait bien dans l'éducation où on reproduit, on va à l'opposé. Sur certaines choses je suis à l'opposé, mais sur certaines autres, je reproduis. Et c'est un peu plus fort que moi, je dirais. Voilà.
Lorsque vous dites que vous n'avez pas eu le temps de tout lui dire, vous pensez que là, vous étiez l'un et l'autre à un moment de vos vies respectives où vous alliez pouvoir échanger, parce que finalement, il est parti soudainement, votre père.
Oui. Ben, je pense qu'on avait encore des choses à se dire, en tout cas. Voilà, ouais, on s'était dit, ouais. déjà dit beaucoup de choses. Ouais. Mais on avait encore des choses à se dire. Moi, j'ai évolué dans ma vie. J'ai rencontré ma compagne avec qui je suis bien. Et on construit quelque chose. Là, elle est enceinte. Voilà, je pense que ça aurait ouvert peut-être d'autres perspectives dans notre relation de réconciliation, même s'il y avait déjà une réconciliation quelque part. Mais bon, on sait que le pardon, d'ailleurs mutuel, prend du temps. Hein, c'est pas sur juste un mot, je te pardonne, ok.
Oui, oui.
Tout ça prend du temps. Hein, donc, je pense que voilà, il a manqué un peu de temps pour ça, je dirais. Voilà, et qu'il me voit un peu aussi évoluer dans cette bonne lancée là, que j'ai entamée depuis 3 ans avec l'arrêt des addictions.
Il avait eu le temps de constater ça ou pas encore ? Est-ce que vous étiez, est-ce que vous n'étiez pas en période d'essai encore ? Vous voyez, parce que lorsque on a habitué les siens à mener ce type de vie, souvent ils sont perplexes sur le fait que vous arrêtiez comme ça. Ça faisait 3 ans. Est-ce que là ils commençaient à voir que c'était du sérieux pour vous ?
Très rapidement, il l'a vu, parce que bon, il y a eu un arrêt très rapide de ma part. C'est oui, ce que vous dites, ça a duré peut-être quelques mois, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, ils ont vu que c'était du sérieux. Bon, après, c'est parce que j'ai arrêté aussi d'une manière un peu, c'est un peu atypique ce qui m'est arrivé. Et donc voilà, non, je crois qu'ils ont été assez rassurés rapidement. Après, ils s'inquiétaient plus pour. Mon père s'inquiétait plus pour le fait que j'ai pas de travail, hein, que j'arrive pas à m'inscrire dans une vie professionnelle.
Ça, on en parlera tout à l'heure. C'est intéressant, en tout cas, d'évoquer le fait que maintenant que vous allez bien, vous appliquez
au mieux.
Pardonnez-moi, c'est vrai.
Mais
que vous appliquiez maintenant, ce que faisait votre père, en fait. Avec, vous n'étiez pas spécialement d'accord quand il faisait ça en plus.
Ah non, c'est quelque chose que j'ai toujours, j'aimais pas. Moi, quand je faisais ça avec ma mère, non, j'aimais pas.
Alors, quand votre femme vous dit que vous faites comme votre père, ça vous évoque quoi ?
Eh bien, c'est compliqué. Mm-hmm. C'est compliqué parce qu'au moment où elle me l'a dit justement il y a 2 jours, elle me l'avait déjà dit auparavant, puis je ne m'étais pas braqué, puis j'ai pensé que c'était très judicieux et que c'était vrai. Mais c'est compliqué, évidemment. Ça passe par 2 étapes, c'est que je me braque dans un premier temps. Voilà, je ne veux pas être comparé à mon père avec justement tout ce qu'il a pu être dans ses limites. Et à la fois, je m'en veux. Voilà, je m'en veux, donc j'ai une difficulté à reconnaître. Et puis, bon, je finis toujours par reconnaître.
Oui. Ça, c'est bien.
Mais il y a ce...
Très bien.
Ouais, je pense. Bah, je crois que je suis de bonne volonté. Je peux être un peu con parfois, mais je crois qu'au fond, voilà, j'essaie de reconnaître. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est par phase, bah, j'ai un truc qui me paraît un peu incontrôlable, j'allais dire. Voilà,
c'est incontrôlable, d'accord.
Ouais, il y a un truc qui me dépasse un peu comme ça, ouais.
Alors.
Je me l'explique pas trop, ouais.
Pour celles et ceux qui ne nous ont pas écoutés hier soir jusqu'au bout, vous preniez l'exemple de votre compagne qui mettait pendant quelques jours le même t-shirt et que cela vous gênait, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres fois où vous lui avez fait des réflexions comme ça et qu'est-ce que ça provoque chez vous exactement ? Parce que hier soir, on n'est pas allé au bout de ça. Quelle sensation cela provoque chez vous ?
De le dire, vous voulez dire
de le dire parce que ça vous gêne quelque part. Quelle est cette gêne en fait?
Ben, je crois que ça rend. Oui, c'est intéressant de me poser cette question parce que je crois que ça me renvoie à ma propre relation, j'allais dire à la propreté.
Comme si elle négligeait cette relation?
Ben, il m'est arrivé de le penser alors que c'est pas le cas, alors que j'en ai bien conscience. Mmh. Mais je pense que c'est plus vraiment... Moi, je suis un peu... Bon, déjà, j'ai un odorat, mais je suis un grand hypersensible, comme plein de gens. J'ai les sens aussi très développés, j'ai un endroit très très développé, ça me rend d'ailleurs, ça me pose des difficultés parfois,
oui.
parce que j'ai tendance à sentir des odeurs que les autres ne sentent pas. Et j'ai un rapport, voilà, moi je change de fringue vraiment une fois par jour, voire deux. J'ai ces limites un peu maladives, quoi. C'est-à-dire que je veux être toujours très propre, quoi.
Oui, et donc, votre compagne, c'est un peu le contraire, par moment, en tout cas.
Oui, le contraire, c'est pas le même fonctionnement, parce que moi, je me rends bien compte que c'est un peu excessif, moi aussi, comme je suis, donc je sais pas si c'est... ouais. Je sais pas si c'est le contraire, mais c'est autrement. Voilà, je sais pas où est la norme, je sais pas si on a une, mais voilà.
Alors, vous disiez que ce type de réflexion amenait évidemment des heurts entre vous. Comment ça a évolué depuis 24 heures ? J'aimerais savoir, en fait, vous restez, elle reste là-dessus, sur ses réflexions, ou est-ce qu'elle avance, elle ?
Eh bien, on a pu discuter, parce que comme à chaque fois, moi, au bout d'un moment, je reconnais. Donc, je vais demander pardon, je lui redis que, évidemment, que je l'aimais et que tout ça, c'est pas important et que c'est mon problème à moi, en fait. Hein, et donc voilà, on se retrouve bien, finalement, là. On se retrouve bien et puis il faut que je fasse très attention à l'avenir. Puis je crois que j'ai à travailler hein, sur... j'allais dire, de manière large, voilà, de me détacher de mon père, moi, je dirais. Voilà.
Ce qui n'est pas facile pour vous, parce que pour le coup, il n'est plus là. Et c'est plus facile de faire ce travail lorsque... si votre père était encore là, ça aurait été beaucoup plus facile pour vous de faire ce travail, peut-être avec lui.
Oui.
En tout cas, en évoquant certaines choses. Donc, bien évidemment, je pense que ça va nécessiter que vous redoubliez d'efforts pour sortir de ça, en fait.
Oui.
Mais
oui, il me semble aussi, ouais.
Vous m'avez parlé d'engagement hier soir, parce que votre femme est enceinte de 4 mois.
Oui.
Et vous m'avez dit que lorsque vous y pensiez, ça vous étouffait, que vous aviez peur devant cette situation. Et quand je vous ai évoqué l'engagement, vous m'avez dit que oui, c'était ça.
Oui, alors je vais préciser les choses. C'est pas le fait qu'elle soit enceinte précisément juste ça qui peut me faire peur. C'est un ensemble, c'est un contexte en fait. C'est le fait que voilà, je vous avais parlé de sa famille qui peut prendre beaucoup de place parfois. C'est son ex mari aussi qui est très compliqué et qui vient comme ça dans notre couple parfois. Hein, par, mm-hmm.
Alors je précise aussi pour ceux qui n'étaient pas là hier soir que cet ex entretient des relations très nocives avec votre compagne actuelle, que c'est quelqu'un d'extrêmement nocif et que ils ont un enfant en commun, un petit garçon de 11 ans. Hein.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Petit garçon qui va de temps en temps chez son père.
Une semaine sur deux.
Une semaine sur deux.
Il y a une garde alternée. Ouais, ouais, ouais.
Donc cet homme a tout de même une capacité de vous impacter, en tout cas d'impacter votre femme. À plus ou moins courte échéance à chaque fois. À chaque fois que le petit va chez lui, il a la possibilité de vous bousculer un peu.
Eh bien, c'est ça. Ouais. De manière directe ou indirecte. Il utilise beaucoup le petit. Enfin, ça me... Aussi, voilà. C'est une manière très vicelarde. Oui. Donc il vient impacter directement ma compagne et donc notre couple, hein, parce qu'on passe du temps à démêler tout ça, parce qu'elle reconnaît qu'elle est... Elle était sous emprise hein, à l'époque de cet homme. Ouais. Elle reconnaît que c'est compliqué, on le sait bien, que c'est très compliqué de sortir, même après séparation.
Ouais.
Surtout quand il y a une garde, encore un lien hein, qui fait qu'il y a un enfant. Du coup, ouais, voilà, c'est pas évident, ouais, ouais, ouais.
Et vous évoquiez sa famille parce que votre femme a un jeune frère qui souffre de schizophrénie, hein, une grave voilà, schizophrénie, ouais. Et elle s'occupe beaucoup de son frère.
Et de sa mère, oui.
Et de sa mère.
Ah alors, oui, les rôles sont inversés. Hein. C'est elle la mère de famille. Quoi.
D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, finalement, tout le package avec cet enfant qui va arriver dans quelques mois,
oui.
Quelle sensation se dégage de tout ça, en fait ? Est-ce que ça fait beaucoup pour vous ?
C'est ça. En fait, ça fait beaucoup, mais par moment, je dirais. C'est pas continu. Moi, je suis tellement heureux de... Voilà, qu'on attend un enfant, c'est complètement inconnu, hein. J'ai la trouille en même temps, hein. Je dis pas que c'est... Voilà, en plus, je vais moi-même devenir père, alors il y a tout qui se joue avec mon propre père. Bon, il y a tout ça, mais non, je crois qu'il y a évidemment une joie, mais pour toute la préparation au mariage aussi, même si moi j'ai plus tendance à mettre un frein sur... voilà, faut pas aller trop vite, parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Et je dirais que c'est pour ça, c'est par moment où j'ai tendance un peu à... Voilà, quand il y a la famille, la belle famille qui va faire un peu trop prendre de place, ou l'ex, tout ça, et c'est là où j'ai tendance à un peu saturer. Voilà, et je me dis, mais est-ce que je vais y arriver, quoi ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ? Voilà, je dirais que c'est par moment. C'est pas continu, mais c'est par moment, en fait.
Vous l'avez évoqué avec elle, ça ?
C'est... Bien sûr, oui, ouais. Oui. Ah oui, on parle beaucoup.
Et qu'est-ce qu'elle vous dit, alors ?
Mais qu'est-ce qu'elle me dit
Est-ce qu'elle a confiance en l'avenir? Est-ce qu'elle évoque que justement, quand cet enfant va venir... moi, je pense, hein, je me permets de vous dire que je pense que quand cet enfant va arriver, ça va bien évidemment bousculer aussi votre couple, parce que l'arrivée d'un enfant bouscule physiquement.
Oui.
Hein,
oui.
En même temps, émotionnellement, c'est quelque chose de très... fort, d'unique. On est submergé par quelque chose qui est de l'ordre de l'immense, d'un amour qui naît là d'un seul coup, un amour qu'on a jamais éprouvé et qui sera un amour éternel. Donc il y a une dimension immense qui fait que aussi vous êtes lié tout à coup à vie aussi avec cette femme que vous aimez en plus. Donc quel cadeau.
Oui.
Et que peut-être, alors c'est vrai que je conseille souvent de ne pas trop se projeter dans la vie lorsqu'on affronte des périodes compliquées, mais que lorsque on est dans la future paternité, je pense que c'est bien de se préparer à ça et de vous projeter, de voir quel rôle vous allez avoir dans tout ça. Parce que je pense que les femmes attendent beaucoup de nous lorsque un enfant arrive, et que comme les hommes sont d'éternels petits garçons pour beaucoup d'entre nous, on a toujours du mal à trouver notre place, vous voyez. Et peut-être que vous ressentez déjà les prémices de tout ça, donc c'est bien que vous y réfléchissiez. Après, je pense aussi qu'avec cet enfant qui va arriver, cette famille va être un peu relayée momentanément au second plan, vous voyez. Je pense que c'est votre petit cocon, là, avec déjà cet enfant de 11 ans, et puis ce petit frère ou cette petite sœur qui va arriver. Et vous deux, ce que vous allez en faire, tous les deux ?
Oui, ouais. Mais j'espère... mais je pense que vous avez raison, forcément, ça va... De fait, le cocon va se créer. C'est sûr.
Je pense que vous allez jouer aussi un rôle très important vis-à-vis du fils de votre femme. Tout va se modifier, en fait. Vous allez vraiment former une famille, une famille recomposée, mais parce qu'il y a ce petit bonhomme de 11 ans.
Et puis ça se passe super bien. Voilà, on est tous les trois, ça se passe super bien. J'ai déjà une bonne place, j'allais dire. Je me sens à ma place. Pas de père, mais voilà, de futur beau-père. Puisqu'on n'est pas marié encore, mais donc voilà. Mais alors idéalement, voilà, ce serait qu'il y ait que ce cocon qui n'est pas d'ex, qui n'est pas une famille à côté qui soit trop présente. Mais bon, c'est pas la réalité, évidemment. Mais oui.
C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez la pression un peu, je pense. Parce que vous allez être papa, Et on va aborder donc, du coup, peut-être que la clé de tout ça, elle réside dans le fait de ne pas avoir trouvé votre place professionnellement. Vous m'avez dit hier soir, en fait, être monté à Paris pour faire de la musique, hein, c'est ça, j'ai bien compris.
Oui, tout à fait.
Et que
oui,
voilà, c'est bien évidemment compliqué, mais rien ne vous empêche, rien. Parce que je peux vous dire que tous les artistes que je connais, personnellement, sont tous des gens qui ont traversé des périodes comme vous, vous voyez, Jean-Baptiste. C'est,
des
périodes où, parce que la musique, c'est très difficile. Et en même temps, ça peut d'un seul coup décoller. Il ne faut surtout pas laisser tomber ce côté-là qui vous nourrit sûrement beaucoup et qui vous fait énormément de bien. Il ne faut pas que vous vous disiez... La musique, c'est fini. Maintenant, il faut que je travaille. Je vais avoir un enfant. Vous voyez, il faut. C'est pour ça que je vous conseille de vous projeter un peu et de bien répartir les choses, parce que le fait de travailler, en fait, à part la musique, en fait, est-ce que vous avez d'autres envies sur certains secteurs professionnels qui vous font envie?
Oui, alors déjà pour la musique, j'en fais toujours, hein, j'en fais toujours, mais pour moi, hein, parce que je compose.
Oui.
Je suis chanteur, guitariste de base, mais après je touche un peu à tout et donc je compose. Donc j'en fais toujours, mais je le garde en passion actuellement.
Oui.
Et après pour le reste, d'autres idées, bien sûr, mais ça nécessiterait des formations, je ne me sens pas capable. Ça serait évidemment l'aide à la personne. Ça serait écouter idéalement, c'était quelque chose que j'ai longtemps voulu faire aussi.
Oui.
C'est psychologue, vous voyez. Avec ce que mon père me disait que j'étais, je me sentais forcément incapable avec ces longues études. Et là, je ne me sens pas du tout de reprendre des études dans ce... Voilà, mais ça serait ça, évidemment, oui. C'est d'être au service des autres, à l'écoute des autres. Et ouais, ça, c'est ce qui me tient, j'allais dire, dans ma vie de tous les jours, d'ailleurs. C'est ma manière d'être avec les gens.
Mais rien ne vous empêche de vous diriger vers ce secteur où il manque cruellement de personnes comme vous, hein, je veux dire, avec cette vocation. Vous voyez, je pense réellement que si vous prenez votre courage à deux mains, en tout cas si vous arrêtez de vous sous-estimer un peu pour ce côté-là, hein, professionnel, je précise...
Ouais, gros pour le reste aussi. Hein,
oui, voilà. Je sais, voilà... faut pas s'attaquer au package d'un seul coup, oui. Vous voyez. Je pense que professionnellement, ça, si vous voulez aller dans ce secteur-là, il y a quand même des choses qui sont vraiment du domaine du possible. Et vous avez, lorsque vous dites que ça nécessite des formations, c'est-à-dire, vous avez cherché de quel côté?
Non, mais j'avais regardé déjà pour être psy. Donc ça, c'est très long, c'est... Financièrement, c'est compliqué. Après, non, je m'étais renseigné sur des choses plus accessibles comme le coaching, qui est très à la mode.
Oui.
Bon, j'ai recherché sans vraiment rechercher non plus. Hein. Voilà. Mais je n'ai pas trop poussé les choses. Je ne m'autorise pas, de toute manière, je crois.
Pourquoi vous ne vous autorisez pas?
Comme pas mal de choses. Vous voyez, tout ce qui m'engage, en fait, je crois que j'ai... J'ai peur d'entrer dans la vie. Je suis jamais vraiment rentré dans la vie, vous voyez.
Oui, ouais, je vois.
Je dirais ça comme ça, à tout niveau. Et tout ce qui nécessite un engagement, une prise de risque, un saut dans le vide, en confiance, parce que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal.
C'est aussi parce que vous avez affronté la vie longtemps avec des produits qui vous stimulaient, sans doute, et affronté cette réalité... Sans ça aujourd'hui, au passage de ces 3 ans passés clean comme ça, vous avez quand même affronté cette réalité quand même. Vous avez eu beaucoup de courage de le faire. Donc le fait d'affronter le milieu professionnel armé de ce courage, que vous me donnez l'impression d'être parfaitement capable de le faire.
Ah oui, mais ça peut-être. Mais je peux vous assurer qu'intérieurement, non, c'est très compliqué. J'ai pété un câble quand j'avais 20 ans, j'ai été violent contre mon père, justement, là où tout a explosé, j'ai voulu lui reprocher un peu tout ce qu'il m'avait infligé. Donc je suis allé dans un un truc de repos, quoi, un hôpital de repos. On m'a mis un traitement et j'ai un traitement depuis mes 20 ans. Bon, maintenant, j'ai des doses minimales. Mais tout ça pour vous dire que j'ai des grandes angoisses. Je suis traversé par vraiment des choses qui peuvent me paralyser même. Hein, avec des... Donc, voilà, beaucoup de gens me disent de l'extérieur, mais tu sembles bien, pourtant, tu sembles à l'aise, tu sembles... Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple à l'intérieur. Et les 3 ans là, de clean où je suis, ça a été long. C'était du bonheur et en même temps, ça a été réapprendre à vivre, voilà, sans ces filtres, sans ces voiles, sans ce lubrifiant social là, qui me permettait de vivre dans une illusion. Et petit à petit, ça va de mieux en mieux. Mais 3 ans, c'est rien. C'est rien du tout quand on sort d'une vie comme j'ai eu. Enfin, il faut bien ça, quoi. Voilà, et j'ai pas fini de cheminer, quoi.
Mmh, et il faut bien ça, et si vous sentez que vous avez encore besoin de temps, accordez-vous ce temps. Accordez-vous ce temps. Bien évidemment, ouais, dans la mesure du possible.
Oui.
Parce que vous devez avoir un loyer à payer aussi. Est-ce que de ce côté-là, comment ça va de ce côté-là, en fait ? Vous arrivez à vous débrouiller tous les deux ?
Oui, elle a ma compagne a un bon salaire. Moi, j'ai des aides de l'État, voilà, qui sont ce qui est, mais on s'en sort, ouais. C'est elle qui prend beaucoup tout en charge. Ouais, ouais.
Que fait-elle en fait dans la vie ?
Elle est assistante sociale en hôpital.
D'accord.
Dans différents services, en intervenant dans différents services, ouais.
Jean-Baptiste, vous restez avec moi. On va continuer à échanger tous les
Bien
deux,
sûr.
Et puis on se retrouve après l'information sur Europe. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 5 minutes et vous êtes sur Europe 1. C'est votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin. N'hésitez pas à nous appeler au 39 21 50 centimes d'euros la minute. Nous sommes là pour vous écouter. Et nous sommes pour le moment avec Jean-Baptiste, futur jeune papa, futur jeune marié. Jean-Baptiste qui a 38 ans et qui nous évoque ses difficultés à mettre les pieds vraiment... de manière confiante dans le milieu professionnel. Alors, je vous incite quand même, Jean-Baptiste, à prendre votre temps, hein, si vous trouvez que vous n'êtes pas arrivé au bout du cheminement dont vous avez besoin pour vraiment prendre confiance en vous. Parce que si vous ressentez que vous avez encore du chemin à faire, faites-le, en fait. Vous en pensez quoi ?
Ah ben j'en pense que vous m'avez dit ça tout à l'heure, là vous me redites, et je crois que ça me fait beaucoup de bien de l'entendre, parce que je crois que je me mets une injonction comme ça, qu'à tout prix il faut que je reprenne le travail là. Je crois que mon père aurait aimé que je travaille, ma mère qui est encore là, je pense qu'elle se fait beaucoup de soucis sur le fait que je travaille pas. Vous savez, dans la société, dehors, qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles pas, comment tu fais ? Bon, vous voyez, c'est normal, la norme c'est le travail. Et ça fait du bien d'entendre que je peux aussi prendre mon temps, parce que c'est sûr que je sens que j'en ai encore un peu besoin, quoi. Je suis en reconstruction, quoi.
Oui, et vous avez raison d'évoquer la pression de la société, mais quand on la met de côté, quand on rentre dans notre propre réalité, et qu'on qu'on écoute nos intuitions... Et dans votre cas, c'est important. Je pense que pour chacun d'entre nous, c'est important de ne pas précipiter les choses. Parce que si vous les précipitez, vous avez toutes les chances de planter vos projets, et puis surtout de vivre ça de la mauvaise manière, vous voyez. Alors que moi, je suis certain que quand vous le sentirez, ça ira de toute façon même plus vite, vous voyez, de manière plus fluide, et vous serez beaucoup plus même performant dans ce que vous allez décider de faire. Bien évidemment que ce sont toujours les autres qui vous mettent la pression, qui vous regardent, qui vous jugent, mais ce qui est important aujourd'hui pour vous, c'est vous. Après tout ce que vous avez traversé, vous pourriez être malade aujourd'hui, vous pourriez même ne plus être là avec ce qui s'est passé dans votre vie, et je crois que vous pouvez vous réjouir chaque jour que, voilà, que juste pour aujourd'hui, j'avance un peu, je pose des actes et je fais ce qu'il faut pour m'élever et être bien, bien ancré dans ma famille, avec ma femme, avec cet enfant de 11 ans. Et le travail, il est à venir, il est là aussi. Parce que moi, j'ai tendance à penser, en vous écoutant, que la sensibilité que vous avez vous porte et fait de vous un être très précieux. Mais qu'en même temps, vous avez encore du chemin à faire. Et que quand cet enfant va arriver, l'arrivée d'un enfant, ça bouscule beaucoup de choses, y compris dans le sens qu'on peut donner à sa vie, tout à coup. Et dans les prises de responsabilité, et j'irais même un peu plus loin, dans les prises de risque, on se sent plus fort parce qu'il y a cet enfant, parce qu'on est responsable de lui. Et je trouve que cette pression, elle est beaucoup plus... comment vous dire ? Ah, je cherche le mot que je voudrais trouver. C'est pas justifié. Elle est ça va me venir. Elle s'impose d'elle-même. Elle est naturelle. Elle nous tombe dessus, en fait. J'ai du mal à trouver le mot exact. Je l'ai au bout de la langue et je ne trouve pas. Elle s'impose parce que l'arrivée d'un enfant, comme je vous dis, ça bouscule beaucoup de choses. Alors, bien évidemment, ça mène à un questionnement sur la responsabilité, sur tout un tas de repositionnements. Mais ça nous impose aussi une volonté nouvelle. C'est de faire attention à cet enfant, de prévenir à ses besoins légitimes. Voilà, en fait. C'est une pression légitime qui et vous voyez ce côté naturel du côté légitime. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a envie de se bouger plus. Cette responsabilité nous donne plus confiance en nous parce qu'on regarde plus ce petit bout-là. On regarde sa femme, on a envie de les protéger, et donc du coup, ça crée une force nouvelle. En tout cas, c'est comme ça que je le sens.
Ah ben écoutez, c'est beau.
Merci, mais...
c'est beau si c'est ça, et si c'est... Ouais. Mais je l'imagine comme ça aussi. Bon, au milieu de mes peurs aussi, mais... Ouais. Ah mais c'est beau ce que vous dites. Ouais.
Et dans cet engagement, en fait, qui est le vôtre aujourd'hui, avec les peurs qui accompagnent justement cet engagement et tout le travail que vous avez à faire sur vous pour justement ne pas appliquer ce que votre père vous a montré. Parce que ça aussi, c'est aussi, vous évoquez la pression de la société, mais la pression qu'il vous a mis sur les épaules, comme si, en fait, ce qu'il faisait lui était bien. Vous voyez ? Parce qu'il avait réussi en tant que chef de famille, peut-être à mener vos frères et sœurs dans la vie et qu'ils s'étaient réalisés et qu'il y avait une certaine reconnaissance familiale de cet homme. Votre père, ça n'est pas vous. Et vous, vous n'êtes pas votre père. Donc, il faut que vous arriviez à vous libérer de ce qu'il était, de sa vision de l'éducation, de sa vision de qui vous étiez, en fait. Et bien réaliser que vous êtes un homme, vous êtes un mari, vous êtes un futur père, vous êtes un beau-père aujourd'hui, vous êtes déjà tellement de choses.
Oui, et c'est vertigineux.
C'est vertigineux, mais
dans le bon sens.
Mais
la
vie est vertigineuse si.
Et
Dieu merci, on ne passe pas notre temps à faire justement l'évaluation de toutes ces responsabilités qu'on peut avoir et justement de tout ce qui nous attend, parce que justement ces envies et la force qui nous pousse hein, et qui naît de tout un tas d'événements dans la vie fait que les choses se font naturellement. Nous sommes de merveilleuses machines quand même, quand vous y réfléchissez bien.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est. Je dirais que, en fait, quand je pense à vous et au bilan que vous m'avez exprimé ce soir, il est normal. Vous avez des questions sur vous, mais voilà, qui demandent réponse, qui demandent de se solutionner avec voilà, un cheminement, avec du travail sur vous et beaucoup d'écoute de votre compagne, parce que j'ai l'impression qu'elle a beaucoup cheminé, elle, avec sa famille et avec cet homme dont elle s'est extirpée des griffes de cet homme, vous voyez, donc entre son frère qui souffre de schizophrénie, sa maman dont elle s'occupe beaucoup, cet homme qui exerce une emprise sur elle, c'est quelqu'un qui a dû beaucoup cheminé déjà et qui doit être très riche en termes de victoire, vous voyez.
Ah oui, oui.
Et comme vous êtes très amoureux l'un de l'autre, c'est une formidable chance de puiser dans cet amour-là. Parce que moi, j'ai tendance à penser, vous savez, que, et ça va peut-être paraître un peu ridicule, mais je m'en fous. En fait, je crois que la famille... C'est vraiment quelque chose de très... C'est le socle qui nous permet d'aller toujours un peu plus loin, même si on se perd à certains moments. Mais on sait qu'en revenant là, on va pouvoir reprendre des forces, se reconnecter.
Ah mais je suis tout à fait d'accord avec cette... Oui, ouais, je vous rejoins. Ouais, ouais.
Et la première chose à réussir, c'est ça. Et... Ouais. Jusqu'à maintenant, je pense que vous le réussissez plutôt bien avec cette femme.
Ben on essaye. On essaye, oui.
Ben ouais. Et après le chemin que vous avez parcouru, là, c'est... Vous savez, chez les narcotiques anonymes, on dit souvent... D'abord, on dit chaque jour, juste pour aujourd'hui déjà, fais ce que tu as à faire, fais... Vous m'avez dit que vous y étiez allé là-bas, donc rappelez-vous bien de ce qu'on vous dit, et de continuer, même parce que justement vous êtes clean aujourd'hui, de bien, bien appliquer ce qu'on vous enseigne là-bas. C'est d'abord croire à cette puissance supérieure qui est la vôtre, à vous, hein, très intimement. Appliquer justement ce juste pour aujourd'hui, je vais essayer de faire ce que je peux. Et puis, le fait que vous soyez clean depuis 3 ans, c'est magnifique. Donc, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez réalisé.
Et vous savez, je ne sais pas si on a encore un peu de temps.
On a encore 5-10 minutes, ouais.
Bon, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que dans mes addictions, j'ai un peu tout essayé pour arrêter. Je suis allé voir des alcoologues pour l'alcool, je suis allé au A. C'est formidable, Léa, d'ailleurs. Je sais que vous en parlez, vous en avez parlé encore il n'y a pas longtemps.
Oui, c'est très puissant. En tout cas, pour tous ceux qui ont des problèmes d'alcool, les alcooliques anonymes. Ah, ben oui, il faut y aller. Ouais. Mmh. C'est bien de le dire et de le redire, parce que c'est l'endroit où on réalise qu'on n'est pas seul au monde. Et que d'autres souffrent comme nous, et pourtant ils sont différents. Des fois, ils sont plus riches que nous, riches matériellement, riches. Culturellement, plus encore plus perdu que nous, et ça nous permet de voir que nous ne sommes pas seuls, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est puissant, vous avez raison.
Oui, et puis surtout, l'alcool, c'est une maladie du lien, c'est une maladie de, de la solitude. Voilà. Donc, effectivement, se retrouver, on a l'impression qu'on parle de, quand il y a un témoignage chez Léa, on a l'impression qu'on parle de nous, quoi. Et on se reconnaît effectivement. Mais voilà, moi j'ai essayé pas mal de choses et Léa, j'ai suivi, j'ai participé aux réunions pendant 6 mois, après j'ai eu un déménagement donc j'ai pu y aller. Donc j'ai replongé au bout de 6 mois. Hein. J'avais arrêté pendant 6 mois, mais j'ai replongé. Puis après, ma vie a fait que. Après, c'était au milieu de la musique, donc ça, c'est sûr que c'était pas évident d'arrêter. Et puis, en fait, ce qui s'est passé pour moi, alors je sais. J'ai arrêté du jour au lendemain, mais c'est parti d'une prière. C'est parti d'une prière à Dieu. Ouais, en disant, bah, écoute, si tu existes là, je suis au bout là. Je suis à poil, je peux plus rien, je vais devenir fou, je vais mourir. Et puis j'ai été entendu. J'ai été entendu et voilà, bah, depuis je chemine humblement, avec cette foi que j'ai pour Dieu. Bon, après chacun ses croyances et tout ça. Hein. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, et c'est en cela que j'ai réussi à arrêter vraiment du jour au lendemain. Tout seul, j'étais incapable. J'avais tout essayé. Et ben voilà, j'ai eu cette grâce qui m'a permis de cet amour que j'ai ressenti, qui est totalement surnaturel, hein, qui m'est tombé dessus, qui m'a fondu dessus. Tout était beau, lumineux, et c'est ce qu'on appelle une effusion d'esprit chez les chrétiens. Et voilà, et c'est ça qui me tient, qui m'a tenu aussi pendant ces 3 ans, là aussi.
Et qui va vous permettre de réaliser tout un tas de choses formidables, parce que, vous le savez aussi, on l'entend beaucoup au NA et au AA, et surtout on le voit, c'est que toutes les personnes qui ont décroché depuis longtemps ont réalisé tellement de grandes choses. Ce qui est promis là-bas se réalise.
Oui.
Et oui.
Oui.
Donc le chemin, vous en connaissez une partie déjà, je trouve.
Je commence.
Je commence. En tout cas, écoutez, n'hésitez pas à me rappeler, Jean-Baptiste. Voilà.
Ça sera vraiment avec plaisir.
Oui, parce puis, que... Dites-moi.
Pardon. Non, je tiens vraiment à vous remercier, et à votre équipe aussi. Et puis pour ce que vous faites, je vous écoute très souvent. Et voilà. Tout le monde vous le dit, et moi je vous le redis aussi du fond du cœur.
Et ça fait toujours plaisir, croyez-moi.
Oui.
Passez une belle nuit en tout cas, et n'hésitez pas à me rappeler quand le petit arrivera, en tout cas quand vous voulez, d'accord ?
Eh bien, avec grand plaisir.
Très bien.
Merci Olivier, bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir.